Aujourd'hui, dans votre grande table, un écrivain et un philosophe donnent leur version des gilets jaunes. Invité de la grande table des idées à partir de 12h55, le penseur marxiste Alain Badiou rappelle que tout ce qui bouge n'est pas rouge. Dans Méfiez-vous des Blancs, habitants du rivage, chez Fayard, il plaide pour un nouveau communisme dans une patrie monde. Mais d'abord, plume de l'introspection dans Charlot déprime, suivi de Un rêve de Charlot chez Librio. Grégoire Bouillet s'improvise Gonzo, journaliste à l'acte 4 du mouvement. L'auteur du dossier M, prix décembre, et de Rapport sur moi, se tourne vers l'homme de la rue, celui qui a su réveiller sa conscience, avec toujours autant de piquant et d'érudition. Il est notre premier invité à écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Charlot déprime, suivi de Un rêve de Charlot, deux récits en miroir, nés de l'envie d'aller voir. Ne me laisse pas indifférent. Cela réveille ma petite conscience politique en déshérence depuis si longtemps, sont les premiers mots de ce texte. Grégoire Bouillet est donc descendu dans la rue, sans gilet jaune, le 8 décembre dernier, acte 4 du mouvement. Bonjour à vous, Grégoire Bouillet.
Bonjour.
Quelque chose est en train de s'écrire là, en France, depuis 3 semaines, qui souffle sur certains feux qui ne s'éteindront jamais en moi. Quelque chose est en train de s'écrire, mais sans les écrivains. Vous poursuivez, ils sont où les écrivains? Eux qui se passionnent tellement pour les individus, qui décrivent si bien leur drame, tentent follement de réparer le réel. Là, ils sont où? Ça ne les intéresse pas. Il est où pour vous le rôle de l'écrivain, Grégoire Bouillet? Accompagner l'époque ou lui résister?
Les deux, j'imagine. Être présent, en tous les cas. Présent à soi, présent à ce qui se passe, présent à l'époque. Après, il n'y a pas de nécessité, c'est-à-dire que moi, je me souviens avoir raté, par exemple, Nuit debout, parce que dans ma vie privée, il se passait des trucs qui étaient beaucoup plus importants que ce qui se passait socialement à ce moment-là à Paris. Donc, j'imagine que des gens qui viennent de tomber amoureux n'en ont rien à foutre des gilets jaunes, par exemple.
Mais ça veut dire quoi, rater Nuit debout, rater les gilets jaunes? Ça veut dire ne pas être descendu, aller voir, écouter?
Oui, enfin, être passé à côté de quelque chose qui se passe pour de vrai, qui se passe socialement. Moi, j'ai l'impression que les gilets jaunes, il s'est passé quelque chose, et ce quelque chose, je pourrais le formuler comme un retour du politique après 20, 30, 40 années d'évacuation de la conscience politique et dans le champ social. Pour plein de raisons, hein. Enfin, 83, le ralliement de la gauche à l'économie de marché a complètement viré la question sociale dans la gauche. Le modèle stalinien et toute la gauche qui était ralliée à ce modèle stalinien a complètement discrédité la possibilité d'une alternative, et l'offensive ultralibérale avec Thatcher disant très bien en 79, il n'y a pas d'alternative. Donc ça fait quand même 40 ans que l'on vit dans un monde de plus en plus libéral, ultralibéral, néolibéral, sans aucune opposition.
Le politique s'est pas arrêté aux portes de mai 68, il a continué dans les années 70.
Oui, bien sûr.
Le tournant pour vous, c'est 80.
À la révolution conservatrice et libérale, c'est les années 80. C'est évidemment pas 68, c'est une révolte ratée. Oui. Mais la révolution qui a modifié nos conditions d'existence à tous, c'est dans les années 80.
Ne pas être écrivain, juste en pensée, écrivez-vous. Mais alors écrire, et écrire quoi? Et écrire pour qui? Pour qui vous l'avez écrit, ce double récit?
D'abord, je pense qu'on écrit toujours pour soi. D'abord, pour se mettre au clair soi-même avec ses idées, avec son ressenti. Et puis après, avec l'ambition que ce soit lu. La question de savoir à qui on s'adresse, bah, à tout le monde. Dans le fond, à n'importe qui et à tout le monde, à personne en particulier, même si il est dédicacé à ma fille, ce qui est la première fois où je fais ça, parce que je trouvais que c'était, il y avait une cohérence de le dédicacer à ma fille, mais maintenant
la cohérence du passage de relais, de la
absolument,
transmission des générations aussi.
C'est, enfin, donc je suis père, ma fille a 24 ans et. Et lui dire où je me situe politiquement, c'était une occasion. Enfin, je trouvais que c'était. D'ailleurs, le livre l'a intéressé. Je lui ai fait lire d'abord pour savoir si elle était d'accord que ce livre lui soit dédicacé. Et elle a dit oui. Et après, ça a créé une discussion entre nous, et etc. Précisément parce que la disparition de la pensée politique, de la conscience politique, fait que même ma fille, il lui manque des éléments de base de réflexion, puisqu'il n'y a pas d'excitation politique. Il y a, nous admettons que nous vivons dans ce monde et on essaye chacun de nous débrouiller à l'intérieur de ce monde. Mais nous remettons jamais, ou très peu, ou quasiment plus, en cause ce monde. Et je pense que les Gilets jaunes, c'est ça surtout la puissance de ce mouvement, au-delà des revendications qui sont les leurs, c'est d'avoir remis sur le devant de la scène quelque chose qui avait été occulté pendant 40 ans et qui est juste recommencer à penser la société dans laquelle on a envie de vivre.
Être clair avec mon ressenti, ça c'est intéressant. Comment faire la part des choses entre ressenti et opinion? Parce que qu'un écrivain décide de mouiller sa chemise, mais pas son gilet, à cause d'une viscérale détestation à porter l'uniforme, racontez-vous, d'user ses semelles pour aller voir et tenter de comprendre ce qui se passe dans la rue, ça c'est sûrement une bonne chose. Mais comment le faire sans démagogie, sans une forme de romantisme de combat?
Alors, d'abord, il faut aller sur place. Il faut juste avoir l'honnêteté. Moi, je suis allé sur les Champs-Élysées parce que c'est le seul moyen de confronter ses opinions, ses affects, ses pensées, ses idées à la réalité de ce qui se passe. C'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. Et alors, vous avez dit au début que je faisais une littérature de l'introspection. J'aurais plutôt tendance à dire que je fais une littérature du vécu. Et ce vécu produit des choses. Donc, aller voir, c'était le minimum. Mais ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, ça c'est un objet qui m'est extérieur, les gilets jaunes, la manifestation, les flics, les slogans, l'ambiance très très particulière qu'il y avait sur les champs. Et en fait, ce n'était qu'une partie de l'histoire. Et ce qui s'est produit, donc ça c'est un petit vécu, je vais avoir 60 ans, me retrouver sous les bombes lacrymo, c'est quand même un peu bizarre, j'avais pas vécu ça depuis mes années lycéennes. Et ce qui s'est produit, c'est que deux jours plus tard, je fais un rêve qui amalgamait des éléments de ça. Donc c'est pour ça que ce livre est à propos des gilets jaunes, mais il est aussi à propos du vécu que moi, par exemple, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, a pu avoir à partir de ce qui s'est passé de façon à la fois réelle et de façon onirique aussi, dans le rêve.
Alors ça y est, vous descendez. Et je lis un extrait. Autour de nous, des gilets jaunes convergent aussi vers les champs, par dizaines, par centaines, finalement c'est de façon dispersée, par petits groupes de deux, de quatre ou de six, rarement plus. Groupe silencieux, et c'est cela qui frappe ce silence, lourd, épais, que rien ne vient troubler tout le long du trajet, dans les rues désertes d'un Paris calfeutré, barricadé, quadrillé par les CRS. Pas le moindre slogan, nulle banderole, aucun chant, ni musique, aucune parole échangée, proférée, partagée, aucune joie manifeste, ni fraternisation improvisée, non. Une absence perceptible d'entrain, une marche jaune, plus funèbre que festive, pas vraiment conquérante. La marche des zombies, les marcheurs jaunes de Game of Thrones, bêtise de ma part que de faire ce genre d'association. Comme s'il fallait toujours ramener ses impressions à quelque chose de connu, afin de se rassurer, afin de s'en débarrasser. N'empêche, c'est chacun dans son coin, chacun en son fort. Sentiment d'une grande désolation, d'individus plus solitaires que solidaires. Je dis à Lolo qu'on assiste en fait à l'ubérisation de la révolte. Chacun est l'auto-entrepreneur de ses revendications. Et comme cette ubérisation est massive, on croit qu'il s'agit d'un mouvement collectif. Lolo hoche la tête, il se fiche de ce que je dis. Il a aperçu des CRS en train de s'équiper dans un car, avec à l'arrière-plan la pyramide du Louvre, et se précipite pour faire une photo. Moi, je suis déçue. Je m'attendais pas à ce silence morne et granitique, comme un sombre présage. Je ne m'attendais pas à cette solitude compacte, renfermée sur elle-même, aguerrie. Mais je m'attendais à quoi? Et c'est vrai, vous vous attendiez à quoi d'ailleurs? Et qu'est-ce que vous avez trouvé?
Alors, on ne sait jamais à quoi on s'attend, ou enfin, on pourrait mettre plein de mots, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la confrontation entre à quoi s'attend-on, qui est de l'ordre de l'informulé, qui est de l'ordre de l'espoir, qui est, qui prend en soi-même toujours qui devient emphatique. Dès qu'on est en soi-même, dès qu'on pense quelque chose, les choses vont changer, etc. Ça devient, voilà. Et quand vous le confrontez à la réalité, évidemment, vous redescendez sur terre. Mais cette redescente sur terre, moi, je la trouve toujours plus passionnante que ce que je pourrais moi imaginer tout seul. Et c'est pour ça que je me situe assez peu dans le monde des idées, parce qu'il me manque la confrontation avec la réalité. Et les idées, c'est extrêmement facile. Tout le monde peut en avoir. Chacun a son idée sur les gilets jaunes. Et pour moi, c'est ce qui était intéressant dans ce texte, c'était d'intégrer mes idées comme un élément du récit et non pas que le récit soit au service des idées. Et il me semble, pour revenir à votre question sur le rôle des écrivains, il me semble la Révolution française fonctionne avec Montesquieu, Rousseau et des textes qui sont de l'ordre des idées. et de la philosophie politique, etc. Mais elle fonctionne aussi avec des récits. Et par exemple, le Candide de Voltaire. Je sais que j'ai pensé au Candide de Voltaire. Pour une raison assez simple, c'est que nous vivons dans un monde que nous avons tendance à considérer comme réel, alors que pour moi, c'est de l'ordre de la fiction. C'est un récit. Le capitalisme est un récit, avec ses dogmes, ses mythes, ses légendes, ses héros. Et pour contester ce récit, on ne peut pas juste se contenter de déconstruire ce récit. Il faut aussi lui opposer des fictions. Et c'est pour ça que la littérature a son importance à jouer.
Fiction contre fiction, c'est un mouvement, celui des Gilets jaunes, qui est né en réaction contre un récit d'ailleurs, contre une forme de fiction. Et on sent que ce mouvement a de ce côté-là aussi votre sympathie. L'un des premiers récits, c'est celui du président, celui d'Emmanuel Macron, celui sur lequel il a été élu. Aujourd'hui, ce qui lui est reproché souvent, c'est d'être le président des riches, voire des ultra-riches. Écoutons-le une minute sans défendre.
Vous savez, je ne suis pas un héritier. Moi, je suis né à Amiens. Il n'y a personne dans ma famille qui était banquier, ni politicien, ni énarque. Ce que je dois à une famille qui m'a appris le sens de l'effort, ceux qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué, et après, je n'ai jamais lâché le morceau. Je suis sorti du système. On m'a pris pour un fada quand j'y suis allé. J'y suis allé contre le système politique en place. Je ne suis pas un politicien, je viens pas d'un parti qui vit depuis 30 ans.
C'est une guerre des mots qui est en train de se jouer en ce moment, Grégoire Bouillet, une guerre du langage et des récits.
Totalement. Je pense que c'est le fond du problème. C'est la question, c'est pas tant que le système, même si j'aime pas utiliser ce mot, justement parce que ça recouvre quoi le système. Enfin bon, pour faire vite, disons, c'est pas que le système est injuste, c'est qu'il est injustifié. Donc ça veut dire qu'il est arbitraire. Et cet arbitraire produit de l'injustice. Donc il faut remonter à la racine, voilà. Et le rapport au langage, on peut le concrétiser en tout le monde aujourd'hui dit j'ai bien profité de mes vacances ou vas-y profite bien et profiter. Ce mot, moi je l'ai vu apparaître. Je l'ai vu arriver dans les conversations et devenir dominant. Et en fait, profiter, c'est un mot qui non seulement vient en remplacement d'énormément de mots, je me suis bien amusé, ou etc. C'est une langue impersonnelle, c'est une langue économique. Et nous parlons une langue économique. La dernière fois, je raconte ça dans le deuxième, dans mon précédent bouquin, je vais à la supérette et un type s'adresse à sa copine, lui dit « Tu t'occupes des légumes, je gère le beurre ». Je gère le beurre. Non, mais quand on en est là, ça a l'air de rien. C'est effectivement, c'est rigolo. Mais après, vous reliez ça à l'appauvrissement de la langue. Et cet appauvrissement, il fait penser à Goebbels. Goebbels disait des choses comme ça. Pardon pour ce point de Goldwyn, évidemment.
C'est pas faux.
Mais quand même, il y a des leçons à tirer de. En tous les cas, Goebbels disait que il cherchait pas à convaincre les gens des idées du nazisme, il cherchait à réduire la langue de sorte qu'on ne puisse plus exprimer que les idées du nazisme. Et là, quand on constate que tout le monde se met à dire profiter, gérer, donc le combat, il est sur la langue, il est sur le récit, et il faut l'affronter de face. Enfin, c'est juste le pouvoir de la littérature, c'est de faire ça. C'est pas de démettre des idées seulement, c'est de contester à la racine la domination qui nous englobe tous.
Le pouvoir de la littérature et le pouvoir de la rue, c'est justement aussi d'émettre des slogans. Et les slogans, c'est l'imagination en mouvement. Vous en retranscrivez certains qui ont résonné à votre oreille. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants. Ça, c'est une chanson qui était fredonnée. Il y a aussi la jaunisse, c'est un symptôme, pas une maladie. Assez de se voter, V-E-A-U-T-E-R, non au harcèlement économique. Il y a dans ce défilé de l'acte 4 des Gilets jaunes auquel vous avez participé, que vous avez observé plutôt, Grégoire Bouillet, des mots qui ont retenti tout particulièrement à votre oreille.
Oui, parce que moi je suis sensible à ce qu'il y a de l'ordre de la création. Enfin, ce mouvement n'est pas juste comme toute révolte sociale. Hein. Enfin, elle est toujours porteuse aussi. Il y a des slogans qui étaient vraiment très drôles. On a retenu les slogans les pires, mais il y en avait qui étaient très drôles et qui étaient très contextualisés. Je me souviens de pas de quartier pour les riches sur une vitrine du bijoutier Cartier et écrit Cartier. Voilà. Donc il y a toujours de l'inventivité et évidemment c'est de l'ordre du vivant. C'est une protestation du vivant, les Gilets jaunes. Au-delà de tout ce qui peut se passer, des différences, de la formulation même des revendications. Je pense que c'est d'abord une protestation du vivant.
Charlot déprime. Pourquoi ce titre? Il faut quand même l'expliquer, que vous avez donné à votre récit. C'est un anagramme et visiblement un anagramme pour vous qui en dit long. Je vous propose, avant que vous nous expliquiez, d'écouter les mots de Jacques Péri-Salco. La littérature son contraste, il est pianiste, il est auteur et il est le roi de l'anagramme.
Ce qui m'aiguillonne, c'est le sentiment d'un secret caché, d'une énigme, comme si les mots, la lecture littérale d'un mot n'épuisait pas tout son dire, comme s'il y avait un surcroît de sens. On a envie de dire « c'était écrit ».
C'est ça.
Quand on tombe accessoirement sur une vérité, c'est une cerise sur le gâteau, mais je pense que l'émerveillement reste l'intérêt principal de l'anagramme. L'anagramme établit des ponts entre des mots. Et ces mots n'avaient aucune chance de se rencontrer, peut-être, dans aucun livre. Et grâce à la contrainte, puisque c'est une contrainte littéraire, voilà, ces mots ont la chance de se côtoyer.
Il établit des ponts, l'anagramme, entre l'histoire aussi, entre des vécus, comme vous dites, Grégoire Bouillet. Alors ici, Charlot déprime et l'anagramme de...
Arc de Triomphe.
L'Arc de Triomphe,
pas oublier absolument.
Sinon le Charlot ne marche plus.
Alors en fait, j'ai beaucoup utilisé l'anagramme, pas seulement pour ce rapport émerveillé de ce que l'on peut faire avec les mots, mais d'une façon un peu plus consciente qui était un mot en cache d'autres. Un peu comme des chansons en cache d'autres quand on fait des covers. Par exemple, prenez Summertime, de la version canonique de Fitzgerald et Armstrong, et vous écoutez la version de Janis Joplin, vous dites mais c'est pas du tout la même chanson, et en même temps c'est la même chanson. Et en filigrane de tout ça, il y a un monde en cache d'autres. Il suffit de changer l'ordre des lettres, de changer l'ordre des choses pour que le monde devienne un autre. Que par exemple, les gilets jaunes au pluriel deviennent génital Jésus, ou que un gilet jaune devienne Jante Julia. Et là, si vous commencez à appeler un gilet jaune Jante Julia, ça devient un autre monde. Et il y a une vertu très contestataire, enfin, qui est de recréer le monde à partir de l'existant, parce que ce monde peut être détruit uniquement en changeant l'ordre des lettres, l'ordre des choses.
Parce qu'un anagramme file toujours la métaphore, d'une
oui,
certaine manière.
Absolument.
Après Charlie, vous diriez « je suis Charlot déprime ».
Oui, je suis Charlot déprime, oui, oui. Oui, je ne sais pas comment dire autrement. Oui, oui, je suis. Et pas que ça, mais je suis... En tout cas, dans ce texte, j'étais Charlot déprime, totalement.
Après les 200 pages les 2000 pages du deuxième, réparties en deux volumes, là, c'est une centaine de pages seulement pour ce récit en deux temps. Du fait social à l'objet littéraire, vous avez aussi recours, dans la deuxième partie de ce récit, en miroir, un rêve de Charlot. Vous avez recours au rêve. Pourquoi? Est-ce que c'est encore la meilleure manière pour vous, aux yeux de l'écrivain, de rendre compte de ce réel que vous vouliez mettre en mots?
Alors moi je postule jamais au départ ce que je vais faire. C'est-à-dire que j'ai un élan, une impulsion, un désir, une nécessité. Et après, c'est l'aventure de l'écriture. Là, il se trouve que...
Ce rêve, vous l'avez vraiment eu, en plus?
Bien sûr, bien sûr. Pas aussi développé, mais je l'explique d'ailleurs dans le livre. J'ai tiré ce rêve jusqu'à dans ses retranchements à lui, pour en faire quelque chose qui devienne un récit. Mais du coup, c'est devenu un vécu. Et donc, c'est à partir de ce vécu-là que j'ai pu commencer à me dire, je vais raconter ce rêve. C'est pas comme si je m'étais dit, je vais inventer un rêve que je vais raconter. J'ai eu ce rêve. Et là, c'était merci la vie, hein, de m'offrir cette occasion qui, en plus, moi, dans mon cheminement personnel, m'a fait avancer dans ma relation à la fiction. C'est-à-dire que j'ai compris d'un seul coup que, par exemple, quand j'invente quand dans mon rêve, il y a ce personnage à la tête de polichinelle qui fait ce grand discours sur le cynisme des gens qui nous domineraient, évidemment, c'est de l'ordre du rêve. Mais je suis prêt à parier que dans les très hautes sphères, des gens ricanent et sont aussi cyniques entre eux que ça, et s'accorderaient pour dire que, comme je le fais dire à ce personnage, que les cris de la foule dans la rue leur font autant plaisir que les gémissements d'une femme pendant l'amour. Parce que je pense qu'il y a ce cynisme-là. Évidemment, je n'en aurai jamais la preuve. Et la fiction permet de dire cette vérité-là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, parce que moi, je me suis toujours astreint à raconter le vécu à partir de moi. C'est, en fait, moi, il y a toujours une espèce de confusion sur l'autofiction, où on pense que je parlerai de moi. Moi, je n'ai jamais eu l'impression de parler de moi. Je pars de moi pour raconter des choses qui sont arrivées dans la réalité, qui est une façon d'appréhender la réalité. J'ai mon point de départ, c'est Bibi. Mais l'objet, c'est toujours le monde, c'est toujours les autres, c'est toujours les phénomènes, et le mystère de la vie, etc. Ou de l'amour, et voilà. Et là, il y avait un mystère qui était celui des gilets jaunes.
Alors allongez-vous, deux minutes, Grégoire Houllier, racontez-nous quand même ce rêve. Comment commence-t-il? Qui est là? Qui est présent?
En fait, c'est un rêve qui a amalgamé des images de films, qui est un rêve extrêmement cinématographique, et donc pour tous ceux qui ont vu Eyes Wide Shut de Kubrick, la scène évidemment de la partouze vénitienne avec des masques véniciens, etc. Mon rêve en fait a complètement amalgamé une histoire de gilets jaunes avec cette scène emblématique et qui est poussée dans ses retranchements parce que je la confronte avec Pasolini. Donc c'est un rêve où un gilet jaune sert d'étalon pour faire plaisir à c'est une sorte d'ambiance de mystère, de partout extrêmement luxueuse, avec aussi une relation avec mon ami qui m'avait raconté un rêve et donc j'intègre des éléments du rêve. Il y a quelqu'un que j'ai croisé lors de la manifestation qui est un personnage très bizarre et qui est absolument réel et qui m'a fait toute un discours contre Macron et qui m'a montré son tatouage avec un drapeau français et une carte de la Syrie au-dessus. Il venait barbouser quoi ici sur les Champs-Élysées, enfin voilà. Et ce personnage est peut-être la seule rencontre réelle que j'ai pu avoir sur les Champs. Il se retrouve dans le rêve, dans une position évidemment tout à fait détestable, voilà. Et puis voilà. Et le rêve va jusqu'au bout après.
Et alors, quand vous descendez dans la rue pour cet acte 4, voir comment ça se passe, et que vous allez jusqu'aux Champs-Élysées, vous n'avez pas votre gilet jaune. Est-ce que dans ce rêve, au contraire, vous le portez? Non, mais dans le rêve, oui.
On m'en donne un, c'est-à-dire que quand j'arrive dans cette...
Et vous l'endossez?
Je n'ai pas le choix. Enfin, dans mon rêve, en tous les cas, je n'ai pas le choix. Et toute la question, d'ailleurs, va être, mais pourquoi je porte un gilet jaune? Pourquoi on me fait porter un gilet jaune? Voilà. Et quel rôle on veut me faire jouer? Est-ce que moi aussi, je vais servir de cobaye? Moi, ça m'intéressait de mettre, en tous les cas, après, dans l'analyse du rêve, je trouvais, et ce pourquoi je l'ai aussi raconté, je trouvais intéressant de mettre en relation la composante sexuelle du sentiment, de la détestation, on va dire vite, hein, sur les riches, les pauvres, tout ça, c'est compliqué de parler comme ça, c'est pauvre, en fait, de parler comme ça. Mais quand même, pour faire vite, la détestation que les pauvres éprouvent envers que les riches éprouvent envers les pauvres. Et je pense qu'il y a une composante sexuelle. Et moi, j'ai repensé à l'amant d'Eddie Charterley. J'ai repensé à Martin Eden, où on voit très bien le rôle que les pauvres tiennent dans la sphère de la haute bourgeoisie en tant que corps animal sexué et qui évidemment fout un peu la merde pour les maris et les époux qui ne peuvent que détester que leur femme puisse avoir une attirante pour un corps sain et proche de l'animalité. Donc tout ça, toutes ces représentations là, elles existent, et donc les mettre en scène à l'intérieur du rêve, c'était assez rigolo que un gilet jaune qui est, on comprend qu'en fait c'est quelqu'un qui a été payé, qui est une sorte de gigolo, un cheval, un étalon, voilà, qui a été payé pour faire l'amour un peu brutalement à une bourgeoise qui est toute contente de voilà.
De toute façon, les rêves ne sont pas, et ça c'est vous qui l'écrivez, Grégoire Houllier, pas seulement en tout cas, l'expression de désir turpide et refoulé, comme on le croit depuis Freud, mais une manière très efficace qu'a le cerveau de nous préparer au pire pouvant réellement se produire dans notre existence. Voilà ce qu'ont découvert les neurosciences. Comment les pilotes, comme les pilotes d'avion, apprennent à surmonter des situations extrêmes et stressantes dans des simulateurs de vol. Nos rêves sont des simulateurs de réalité qui chaque nuit nous préparent à affronter la vie et ses dangers. Que ceci se manifeste une fois le jour venu et nous voici un peu mieux armés que si nous n'avions pas rêvé qu'il nous arrivait des trucs bizarres, effrayants ou perturbants. Nous avons déjà vécu en songe ce genre de situation et nous avons maintenant comment réagir émotionnellement si la réalité rejoint la fiction qu'elle nous inspire. Rapidement, on en est à l'acte 22 du mouvement. Vous suivez encore? Ça vous intéresse toujours?
Je suis, oui, bien sûr, comme tout le monde. Je pense que tout le monde est un peu suspendu. Alors, bon, Notre-Dame a un peu perturber toute cette histoire, mais je suis évidemment la suite. Je constate, enfin, je sais pas du tout où ça va aller. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je crois que ça a amorcé quelque chose. Je crois que même la fin du mouvement des Gilets jaunes ne marquera pas la fin de quelque chose que ce mouvement a amorcé.
Vous aimeriez que votre livre circule sous le manteau ou soit acheté, et c'est pour ça qu'il est à petit prix, comme Le Crépuscule de Juan Branco, le livre qui se vend beaucoup en ce moment. Vous pensez que les Gilets jaunes, le mouvement, a besoin des écrivains pour se
Je suis absolument convaincu qu'il y a un échange à avoir avec les gens qui manifestent, qui se révoltent, qui en ont marre, et parce que la culture va mal aussi. C'est-à-dire que l'économie de marché aussi détruit des pans entiers de la culture en imprimant ces codes, ces lois, ces diktats qui font que, je dirais, il y a un appauvrissement aussi culturel et que c'est important que les écrivains, enfin, je comprends pas que les écrivains ne soient pas tous mobilisés, en fait, parce qu'il y a des révoltes qui se croisent et qui directement devraient faire synergie. Et tout ça peut se penser ensemble.
Merci pour cet appel à la synergie et d'être venu en parler à notre micro. La culture va mal, mais France Culture va bien. Et c'est peut-être le signe que la culture ne va pas si mal. Grégoire Bouillet, Charlot Desprimes, suivi de Un rêve de Charlot, votre livre, vient de paraître chez Librio. Et en violet, Sandrine Trainer, la directrice de France Culture, vient de nous rejoindre dans ce studio. On passe donc du jaune au violet. Bonjour Sandrine Trainer.
Bonjour Olivia Gisbert. Bonjour. Le monde a besoin d'écrivains. Je pense que c'est un sujet sur lequel, un slogan sur lequel on va tous se mettre d'accord. Oui Olivia, une fois n'est pas coutume. C'est la première fois d'ailleurs que je rentre dans un studio un jour comme ça, dans le vôtre, sauf quand je me fais gentiment disputer par les auditeurs et que je viens répondre au micro de la médiatrice.
Qui sera là d'ailleurs tout à l'heure.
Voilà, mais ce ne sera pas moi, ce sera Frédéric Barrère, le directeur de la rédaction. Oui, une fois n'est pas coutume, vous le savez, vous l'avez entendu, France Culture est la radio qui progresse le plus en France. Je crois que c'est un fait marquant, majeur, assez spectaculaire et qui me vaut le plaisir de venir vous dire à vous, à Thomas Cluzel, mais à l'ensemble des équipes de la rédaction et des programmes, à la formidable équipe qui vous accompagne, Olivia, toute l'année, jour après jour, l'énergie qui est mise dans cette programmation tout à fait exceptionnelle qui a rayonné tous ces derniers temps. Vous avez produit sur ce sujet qu'on sait difficile qu'est l'Europe une semaine tout à fait remarquable. Vous avez eu cet avantage de pouvoir aller en Suisse faire ce grand entretien dont vous nous avez régalé lundi à l'antenne de France Culture avec Jean-Luc Godard. Et je voulais vous dire à vous tous qui êtes dans ce studio et à côté en régie qui nous regardez, ma très grande reconnaissance et ma très grande admiration pour le travail que vous faites pour France Culture, pour la culture, pour son rayonnement, pour la transmission de la connaissance jour après jour. Je sais à quel point il est difficile jour après jour de manier à la fois l'actualité, n'est-ce pas Thomas, et la culture des 12 heures, et puis les idées ce sont des sujets qui se croisent, qui font le succès de France Culture, mais qui sont des sujets que vous portez à leur meilleur. Et donc merci beaucoup pour ce travail que vous faites chaque
merci
jour.
Merci beaucoup d'être passé par ce studio pour le dire, l'occasion pour moi aussi du coup de remercier toute l'équipe de la Grande Table qui chaque jour programme et prépare cette émission. Remercier aussi les invités qui nous font confiance, comme vous Grégoire Bouillet, comme Alain Badiou qui va nous rejoindre pour la deuxième partie de la Grande Table en tout pluralisme.
D'ailleurs, Olivier, en un mot, on peut dire que l'augmentation d'audience de cette mi-journée, c'est entre plus 28% entre midi et midi 30 et jusqu'à plus 55% en deuxième partie de la Grande Table. C'est une augmentation d'audience remarquable.
Merci France Culture, il est midi et demi.